à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. L'alcoolisme des femmes diffère-t-il vraiment de celui des hommes? Peu de données fiables sur le nombre de femmes atteintes de la maladie alcoolique, sur toutes celles qui connaissent une assuétude à ce produit puissamment addictif, n'en déplaise au lobby du secteur. Qui sont ces femmes qui plongent dans l'alcool? Quel est le processus qui les fait sombrer dans cette pathologie? Les conséquences sanitaires sont-elles plus graves que pour la jeune masculine? Le regard social sur l'alcoolisme au féminin a-t-il vraiment changé? Est-on vraiment passé du tabou à la banalisation? Quelles sont les pistes pour se sortir de la maladie alcoolique qui frappe de plus en plus de femmes? Pour nous éclairer ce matin, les psychiatres Fatma Bouvet de la Maison Neuve et Laurent Carilla, la patiente experte en addictologie Laurence Côté et une abstinente Virginie Amonet. Si vous êtes une femme qui souffre de la maladie alcoolique, si vous en êtes sortie, si vous êtes sur un chemin de guérison, si vous avez du mal à vous soigner, si vous faites partie de l'entourage, n'hésitez pas à nous contacter au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Romancier et médecin, on retrouve votre chronique vers 11h25.
Oui, tout à l'heure on va parler un peu d'espérance.
Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Bonjour docteur Fatma Bouvet de la Maison Neuve.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et vous avez publié chez Odile Jacob Les femmes face à l'alcool. Bonjour Laurence Côté.
Bonjour.
Vous êtes patiente experte en addictologie, présidente de France Janvier Sobre et vient de paraître chez Interédition un ouvrage très intéressant, un petit guide pour réussir son mois sobre. Bonjour Virginie Amonet.
Merci de m'avoir invitée.
Alors après avoir connu l'enfer de l'alcool, vous êtes désormais abstinente et vous racontez votre maladie dans Noyer dans l'alcool. C'est publié chez Max Milo et nous attendons le docteur Laurent Carilla, psychiatre spécialisé en addictologie à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, qui vient de publier l'alcoolisme au féminin chez Le Duc. Docteur Fatma Bouvet de la Maison Neuve, les femmes boivent de l'alcool de plus en plus. Il est assez difficile de trouver des chiffres fiables. Une chose est sûre, selon une étude européenne publiée en 2015, la France est l'un des pays qui consomme le plus d'alcool dans le monde. Et toutes les enquêtes épidémiologiques montrent que les hommes consomment plus d'alcool que les femmes.
Oui, tout à fait. Il y a également une autre méta-analyse, une autre étude australienne qui a montré également l'augmentation de la consommation d'alcool chez les femmes. Et cette étude à laquelle vous faites mention de l'OCDE 2015 montre que ce sont les femmes les plus instruites, les plus diplômées, celles qui ont le plus de responsabilités également qui boivent. Donc nous, ce qu'on dit dans notre association Addictel, parce que je me permets de citer notre association Addictel que j'ai cofondée avec Elsa Taschini, nous défendons justement, nous disons que les femmes qui boivent ne sont pas celles que l'on croit. Oui.
Laurent Carilla, une enquête de Santé publique France publiée en février 2019 montre que 23% des femmes de 18 à 75 ans boivent entre une et six fois par semaine.
Ouais, c'est une constatation épidémiologique qui est nette et en fait ça démontre bien ce nouvel intérêt pour cette cible féminine et l'alcool qui est médié notamment par le marketing et tous les lobbies qui jouent un rôle important sur la cible féminine et la cible aussi jeune femme.
Alors pendant longtemps, le regard social sur les femmes alcooliques était assez différent de celui porté par les hommes. L'alcool au féminin est-il encore un tabou alors que la consommation des femmes s'est banalisée, Laurence Côté?
On est en train de casser ce tabou. Et on est en train de montrer nos visages. Et c'est ça l'important, car ces femmes, ces jeunes femmes, parce que effectivement elles commencent de plus en plus tôt, vont pouvoir se reconnaître à travers nos parcours.
Virginie Amonet, vous avez ressenti une honte particulière face à votre maladie alcoolique?
Alors, au départ, en tant qu'ancienne alcoolique, effectivement, on cache son alcoolisme. Mais ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'on pense maîtriser l'alcool. Et c'est l'alcool qui vous maîtrise. Après, quand on est vraiment tombé dans l'alcoolisme, non. On ne fait plus attention au regard des autres, ni au regard qu'on a sur soi-même.
Pourquoi l'alcool au féminin est-il encore un tabou? Et si oui, pourquoi Fatma Bouvet de la Maison Neuve?
Merci de me poser la question parce que j'avais vraiment envie de rebondir là-dessus. C'est que le tabou et l'aspect moral qu'entretient l'imaginaire collectif est un danger de santé publique. Pourquoi? Parce que nous voyons ici deux personnes qui ont attendu avant de consulter du fait justement de la honte qui pèse sur tous les troubles féminins. Il faut véritablement insister là-dessus. La spécificité féminine féminines des troubles mentaux sont tabous, ce qui fait que les troubles s'installent, la honte empêche les patientes de consulter. Donc les complications s'installent, c'est une spécialité qu'on n'a pas encore dont on n'a pas encore parlé suffisamment en France, mais qui se développe aux États-Unis, c'est la spécificité féminine des troubles psychiques. Nous en parlerons d'ailleurs au prochain congrès de psychiatrie de l'encéphale. Et ce tabou-là, moi, je dis que l'aspect moral et le jugement moral empêchent et fait que les femmes s'enlisent dans les complications psychiques, physiques, sociales, etc. Pourquoi tabou ? Parce que les codes de notre société sont des codes masculins. Une femme doit bien se tenir. Un homme qui boit, c'est un homme sympa, c'est un bon vivant. Une femme qui boit, ça commence déjà à être un peu une pochetronne. Et qui dit désinhibition ? Il y a une dimension genrée et sexuelle qui est attribuée à la femme. Qui dit désinhibition dit forcément désinhibition sexuelle. Et donc la désinhibition sexuelle dans notre société, je ne vous l'apprends pas, a une signification particulièrement lourde, ce qui évidemment empêche les femmes d'en parler, y compris à leurs médecins traitants qu'elles connaissent depuis très longtemps.
Virginie Abonnet.
Oui, alors dans mon livre Noyé dans l'alcool, ce que j'ai beaucoup comme retour, c'est que en fait, une fois qu'on est tombé dans l'alcoolisme, qu'on soit homme ou femme, on passe par les mêmes problématiques. On passe par l'ivresse, après on passe par la tristesse, après on passe par la violence et la dépression, et on passe des problèmes de l'engrenage psychologique à l'engrenage physique, la dépendance physique. Et ça, hommes et femmes, malheureusement, on est égaux par rapport à ça.
Docteur
Sachant
Cabot.
Que la femme, excusez-moi, est quand même à une corpulence physique moindre.
Docteur Carilla.
Ouais, moi j'ai envie de rebondir sur tout ça. C'est exactement vrai ce que dit le docteur Bouvet, ce que dit Virginie Harmonet, et probablement ce que dirait Laurence Côté, c'est que chez les femmes, il y a beaucoup plus de complications qui sont plus graves quand c'est démasqué. Notamment, 17% des cancers du sein sont dus à l'alcool excessif chez la femme, notamment l'alcoolodépendance. Et c'est vraiment des points importants à souligner, il faut cibler les femmes dans les consultations.
Laurence Côté, pour vous, vous le martelez, il est essentiel de bannir la honte, ne pas avoir honte d'avoir été alcoolique, d'être alcoolique.
Oui, c'est peut-être le message à retenir le plus fort. En fait, on n'est plus dans le déni. Souvent, on est plutôt des femmes cultivées et on a très bien compris à travers des témoignages qu'on a un problème avec l'alcool. Par contre, on est incapable d'en parler tellement on est honteuse d'être tombée aussi bas, et je sais de quoi je parle, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et le maître mot qui a été pour moi le déclic, c'est le jour où j'ai compris, parce que le médecin me l'a dit, « Madame, vous êtes tout simplement malade. »
Absolument.
À ce moment-là, vous n'êtes plus jugé, vous n'êtes plus sur un plan moral, vous êtes sur un plan médical, et vous vous remettez à ces médecins et vous vous faites soigner.
C'est ce qu'on essaye de faire avec Addictel, hein, c'est-à-dire de faire comprendre qu'il s'agit véritablement d'une maladie, qu'il n'y a absolument aucun jugement moral à apporter à ces femmes-là, ça n'est pas un vice. Et vous savez, en consultation, la première chose qu'elles vous disent, c'est que vous m'avez déchargé de 50% de ma culpabilité lorsque vous avez prononcé le mot maladie. C'est très important.
Virginie Abonnet, vous avez mis du temps à prendre conscience que vous étiez malade.
Alors oui, mais le terme maladie, il faut pas attendre non plus d'aller voir un médecin et de prendre des médicaments en se disant je ne veux plus être alcoolique. En fin de compte, le déclic il vient de soi. C'est vrai qu'il faut faire un chemin qui est long. Le parcours de soins est compliqué. Je le raconte également dans mon histoire à travers mon parcours. La prise en charge est compliquée à l'heure actuelle. Quand un patient alcoolique veut se faire soigner, il faut le prendre en charge immédiatement.
Laurent Carilla.
Moi, je suis tout à fait d'accord.
Plus largement, on ne doit pas mépriser ceux qui souffrent d'une assuétude, d'une addiction, et plus ouais, singulièrement une addiction à l'alcool.
Après, homme-femme, bon, il y a pas en addictologie, il y a pas de jugement. Il faut être empathique, il faut avoir une bonne alliance thérapeutique, etc. C'est-à-dire que, comme dit Virginie, je vous appelle Virginie, mais c'est vrai que dès qu'on voit un malade, faut l'évaluer tout de suite, que ce soit un homme, une femme, un vieux, un jeune, tout ce qu'on veut. Il faut l'évaluer tout de suite. Il faut l'évaluer sur le plan addictologique, mais aussi il faut l'évaluer évoluer sur le plan psychologique et physique et environnemental.
Docteur Bouvet de la Maison Neuve, une question très pratique. À partir de combien de verres devient-on malade et surtout à quelle fréquence
alors, de consommation ? Il n'y a pas de notion de nombre de verres ou de fréquence. Ça dépend véritablement des individus. Mais ce que les patients comprennent le mieux, c'est la perte de la liberté de s'abstenir. C'est le fait d'être sans cesse parasité par le produit du matin jusqu'au soir, si vous buvez tous les jours, ou toute la semaine, si vous buvez une fois par semaine. Donc c'est cette dépendance psychique, le fait que vous ne pensiez plus qu'à ça, parce que c'est ce qui vous fera du bien au bout d'un moment. Donc la question du nombre de verres, moi je vois des patientes qui consultent parce qu'elles boivent tous les week-ends et qu'elles ont des ivresses abusives, dangereuses, elles se mettent véritablement en danger, et qu'elles y pensent toute la semaine.
Laurence Côté, vous n'avez rien vu venir. Vous êtes passé d'un simple usage festif à l'excès, puis à l'abus, surtout le week-end, alcoolisme mondain entre amis, à deux quand vous étiez en couple, et puis en solitaire quand vous devenez veuve à l'âge de 35 ans.
Oui, et en solitaire quand je me rends compte que les autres ont décelé mon problème d'alcool. Hein, puisque j'étais dans un environnement professionnel et j'ai fait une belle carrière, j'ai cette chance-là. Et malheureusement, l'alcool m'a fait tout perdre, mais j'entendais mes collaborateurs dire « Dis donc, Madame Côté, on commence à parler de vous. » Et bon. Donc là, à ce moment-là, vous vous dites « Ah, bon, j'ai un problème, mais par contre, comme je suis déjà dans la maladie et que cet alcool est une obsession, moi j'aime bien d'utiliser le mot, c'est devenu une obsession, eh bien, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je me cache et je continue à consommer. Et je perds tout. » Un jour dramatique où je m'effondre, car un jour, votre corps vous lâchera, au sens propre et au sens figuré. D'où l'importance de votre émission, monsieur, de dire n'attendez pas que votre corps lâche. Et c'est pas une question de quantité, comme Fatma vient de nous le dire, ou Laurent. Hein. C'est pas une question de quantité, c'est parce qu'on n'est pas égaux face à l'alcool. Mais un jour, vous serez dans une telle dépendance que votre corps vous lâchera et vous allez toucher le fond.
Et vous, Virginia Monet, vous devenez malade de l'alcoolisme à l'âge de 35 ans. À l'époque, vous devenez alcoolique, je vous cite, « 2 bouteilles de vodka par jour au minimum et sans limite, tout ce que je pouvais boire, en plus, je le buvais. »
Ce qui se passe, c'est qu'on peut boire, mais pas pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que quand on boit pour oublier ses problèmes, noyer ses problèmes dans l'alcool, comme je l'ai fait, pour oublier sa tristesse par frustration dans son travail, sa vie de couple, là, effectivement, on est sur une pente dangereuse. Il faut boire pour de bonnes raisons, de temps en temps, mais pas, et en connaissant ses limites.
Et l'alcool est devenu votre meilleur ami, il a agi comme un fidèle anxiolytique, toujours à portée de main, et que l'on peut très facilement se procurer.
Mais c'est le meilleur anxiolytique du monde en vente libre, il faut le savoir. Et puis quand vous allez à l'hôpital et que vous êtes alcoolisé, vous sortez, on vous laisse sortir sans ordonnance, sans voir un médecin, et vous êtes en manque d'alcool, vous allez au magasin, vous vous en procurez très facilement, et ça fonctionne très bien. L'alcool était devenu mon oxygène, je ne pouvais plus
votre
rien
ami.
Faire. Mon meilleur ami, parce qu'il ne vous quitte jamais, et en plus mon oxygène, c'est-à-dire que je ne pouvais rien faire sans boire de l'alcool le matin en me levant.
Vous aussi, Laurence Côté ?
Oui, mais alors c'est devenu notre meilleur ennemi. Mmh. Ça, je réfléchissais à ennemi, parce que l'alcoolisme, c'est un enfer à petit feu. Mmh.
Pourquoi c'est un puissant anxiolytique, Fatma Bouvet de la Maison Neuve ?
C'est un sédatif, ça a des effets psychotropes, c'est un sédatif. Il faut vraiment préciser aux personnes qui nous écoutent que c'est un anxiolytique et un antidépresseur à très court terme, mais que à moyen et à long terme, et à moyen et à long terme, c'est anxiogène et dépressogène. C'est très important de l'expliquer aux patients.
Comment s'installe une addiction à l'alcool, docteur Carilla ?
Comme toutes les addictions, en fait, ça va agir. En fait, ce qui se passe, c'est que au départ, quand on consomme quelque chose, ça nous fait plaisir. Donc, ça va activer notre circuit cérébral du plaisir, qui est un circuit basique, animal, la récompense. J'ai soif, je bois. J'ai faim, je mange. J'ai envie de sexe, j'ai du sexe. C'est le truc très, très basique. Après, il y a d'autres circuits qui interagissent normalement dans ces situations-là. Il y a le circuit de la motivation, le circuit de la mémoire et le circuit du contrôle. Quand on devient addict, on désynchronise complètement tous ces circuits, en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'y a que le circuit de la récompense qui marche. Donc, j'ai soif, je bois, et le circuit de la mémoire qui dit « tu te rappelles la première fois quand t'as bu, ça t'a fait plaisir ». Tout le reste ne marche pas, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de motivation, on devient addict.
Allez, si vous êtes une femme qui souffre de la maladie alcoolique, si vous en êtes sortie, si vous êtes sur un chemin de guérison ou si vous avez du mal à vous soigner, si vous faites partie de l'entourage, n'hésitez pas à nous contacter au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexa Rivière, Claire Destacan, Julia Macarez et Clément Martin m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Bonne journée à l'écoute de France Inter.
When a little while from now, feeling any less sour, I promised myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, "My God, that's tough, she stood him up." No point in us as well go on, as I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in his mercy, if he really does exist, why did he desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do?
Sullivan interprété Alone Again.
Ali Rebéi, Grand Bien Vous Fasse sur France Inter.
10h24 et on s'intéresse ce matin à l'alcoolisme féminin. N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000.
On nous a resservi à boire.
J'ai bien fait.
J'ai encore soif.
Que cela ne tienne, Joseph. Servez à boire à madame.
J'ai commencé à boire parce qu'on pourrait avoir des choses avec des garçons, pour rencontrer des gens, pour vaincre ma timidité, un tas de trucs, quoi.
Bon, non, mais l'alcool, c'est quoi? C'est merveilleux.
L'alcool, oui, c'est vrai, c'est de l'aide. C'est un fidèle lieutenant quand on est trop fatigué, ou quand on a le cafard, ou quand on est très gai. Les trois cas sont bons.
C'était pas simplement saoul, hein. Vous étiez surtout malade. Non, je sais que j'étais ivre-morte.
En général, c'est 9h. Je me lève à 9h pour boire.
Moi, je passais du whisky au vin rouge, au calvados. Un des liqueurs de verveine. Et de nouveau au vin rouge. J'ai quand même fait une cirrhose.
Porto, au début c'est Martini, je trouvais que c'était meilleur. Enfin, puis après je buvais n'importe quoi.
Là comme ça, vif, je voudrais m'en débarrasser en même temps. J'ai une grosse trouille, c'est que je fonctionne comme ça depuis tellement longtemps que je sais pas du tout quand ça va s'arrêter, si comment je vais me faire.
Parole poignante de femmes alcooliques, medley signé Stéphanie Texier, docteur Fatma Bouvet de la Maison Neuve, docteur Carilla, je rappelle que vous êtes tous les deux psychiatres. Est-il possible de dresser un portrait robot de la femme alcoolique ?
Oui, alors une femme alcoolique, enfin alors oui, on va dire que les facteurs de risque sont toujours, ce sont toujours les mêmes qu'on retrouve. C'est en général une femme qui a des antécédents familiaux, soit de dépression, soit d'anxiété, soit de maladies alcooliques. Ce sont des femmes qui elles-mêmes ont été dépressives ou ont présenté un trouble anxieux. En particulier, il faut toujours chercher pour les médecins qui nous écoutent l'anxiété sociale, hein, c'est très important. Ensuite, il y a des facteurs de vulnérabilité environnementaux comme la charge de travail, la charge domestique, le cumul des responsabilités. Ce sont des femmes qui ont vécu des traumatismes lorsqu'elles étaient petites, et il est très important de parler ici des abus sexuels et des violences sexuelles vécues par les femmes, parce que c'est la première des complications est justement l'addiction et la consommation d'alcool, et c'est très important de parler de violences et d'alcool. Ce sont des femmes qui ont eu des troubles du comportement alimentaire associés à un moment ou à un autre. Ce sont des femmes qui ont parlé tout à l'heure de cette charge mentale, du cumul des responsabilités, qui est très important à souligner. Je voudrais juste dire une chose avant de passer la parole, c'est que on ne fait pas suffisamment de lien entre la maladie alcoolique et l'intimité des femmes, et je pense que ça fait partie aussi de l'élément tabou, parce que lorsqu'on touche à l'alcool, il y a toute une espèce de château de cartes qui tombe. L'intimité, c'est-à-dire ce sont des femmes qui n'ont plus de désir sexuel, ce sont des femmes qui vous disent ne plus avoir confiance en elles, ce sont des femmes qui vous disent, comme ça a été dit dans le reportage, être tellement timide qu'elles ont besoin de désinhibition pour aller vers un homme et pour aller vers l'autre. Ce sont des femmes qui n'aiment plus leur corps. Ce sont des femmes qui ont vécu une agression sexuelle dans leur enfance. Et ça, ce sont des choses dont les médias, heureusement que vous nous laissez en parler aujourd'hui, sont des choses qui sont vécues comme obscènes, parce que ça relève véritablement de l'intimité des femmes. Et la maladie alcoolique, c'est un peu un condensé de toutes ces problématiques féminines.
Docteur Laurent Carilla.
Oui, c'est ça. Comme j'écris dans mon livre, l'alcoolisme au féminin, j'ai voulu faire une synthèse récente des choses, parce que j'ai eu des témoignages en fait forts, des témoignages forts.
Très forts.
Ouais, très très forts. C'est vraiment des choses. Elles se sont mises à nu, quoi, et elles témoignent. C'est exactement la synthèse de ce que dit Fatma Bouvet, c'est-à-dire que il y a tous ces éléments-là, et la maladie alcoolique féminine, finalement, il y a cette spécificité de, c'est une synthèse de tous les maux qu'elles ont en elles. C'est des maux physiques, psychologiques, psychiatriques,
environnementaux, sociaux.
Il y a une petite partie génétique, mais ça n'explique pas tout. Et tout ça est très mixé dans l'environnement, avec justement cette charge mentale, avec justement tout ce qu'elles vivent au quotidien depuis qu'elles sont toutes petites, en fait.
Laurence Côté, patiente experte en addictologie, et Virginie Amonet, abstinente.
Alors justement, c'est très fort ce que les deux médecins viennent de dire. On touche à l'intime. Et encore faut-il oser pouvoir parler de cet intime, et c'est souvent, on a été fracassé dans son enfance ou dans son adolescence. On a souvent enfoui cela au fond de nous, et l'alcool nous a permis de supporter cela. C'est là où l'alcool peut être un ami. Et il nous faut en parler. Donc on a besoin de soignants qui nous mettent à l'aise. Mmh. Moi, j'ai personnellement plus été à l'aise avec une femme soignante, parce que il faut parler de tout cela. Voilà. Et là, moi, j'insiste sur le fait qu'il faut beaucoup plus vous former à nous écouter pour pouvoir recevoir nos souffrances et après nous amener à avancer dans le parcours des soins.
C'est vrai ce que dit Laurence par rapport à femme, mais moi j'ai de plus en plus de femmes qui viennent en consultation, alors pas que pour l'alcool, mais aussi pour les addictions sexuelles. Et c'est un sujet qui est quand même relativement assez nouveau, qui a été un peu décrié, pareil, comme c'est le même profil, addiction sexuelle femme, addiction à l'alcool femme, c'est-à-dire qu'on dit un homme il peut être addict au porno, etc., une femme c'est pas possible. Et en fait, je les vois arriver en consultation, elles sont un peu plus jeunes, avec des problèmes d'alcool au milieu, et en fait, s'installe quand même une clinique assez singulière des choses.
Moi, je pense que, encore une fois, il faut véritablement chercher systématiquement, c'est vraiment mon grand dada aujourd'hui, systématiquement poser la question, quand on est médecin, de est-ce que la personne a un problème avec l'alcool, parce qu'on pose la question sur le tabac, mais on a honte, parce qu'il y a un tabou médical, il faut le reconnaître, hein. On a honte, on ne veut pas s'immiscer dans l'intimité de la femme, oh non, mais elle le prendrait mal. Il faut poser la question de l'alcool et systématiquement poser la question de l'agression sexuelle dans l'enfance, dans l'adolescence, et dans l'actualité, parce que les femmes qui boivent sont violentées, sont violées par leur mari, sont violentées, déposent plainte, et les plaintes sont classées parce que ce sont des femmes qui ont bu. Hein. Il y a des chiffres là-dessus.
Que disent les tableaux cliniques de l'alcoolisme des femmes sur la coexistence de plusieurs troubles psychiques associés, c'est-à-dire la comorbidité ?
Les comorbidités les plus fréquentes sont une autre comorbidité, donc on a parlé des troubles du comportement alimentaire, mais il y a aussi la consommation des médicaments essentiellement, parce que les femmes consomment plus de médicaments. Ensuite, la comorbidité principale est la dépression et les troubles anxieux. Et puis, on peut trouver la bipolarité, etc. Et les comorbidités augmentent le craving, c'est-à-dire cette envie irrépressible d'aller consommer de l'alcool.
Virginia Monet.
Mais écoutez, quand on tombe dans l'alcoolisme, c'est simple, on a envie de s'oublier soi-même. C'est un suicide à petit feu. Donc, évidemment, on recherche l'oubli, on recherche vraiment l'alcoolisation massive. Et oui, c'est un suicide à petit feu, mais il faut aussi parler de l'entourage, parce que l'entourage souffre énormément, se sent complètement perdu, ne peut pas intervenir, intervient comme il le peut, il fait souvent mal, malheureusement, en essayant de maîtriser la consommation d'alcool de la personne alcoolique, ce que je raconte dans mon livre également, et c'est vrai qu'il faut penser à eux, parce qu'ils sont complètement désemparés, et il faut le dire, il n'y a que la personne alcoolique qui peut sortir de l'alcoolisme elle-même, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de l'alcoolisme pour quelqu'un d'autre, ou parce qu'on a perdu quelqu'un, on peut sortir de l'alcoolisme que pour soi-même.
Bonjour Laurent, bienvenue.
Oui, bonjour. Alors, merci de prendre mon appel.
Alors vous êtes désemparé, hein, votre femme, vous nous l'avez dit hors antenne, est une brillante avocate qui s'est mise à boire.
Oui, c'est exactement ça. Elle est brillante, elle est ravissante, elle est très belle, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mmh. Elle a un cerveau qui fonctionne, mais elle gère mal le stress. Alors c'est ce que c'est le stress du couple, de la vie, du travail. Ma femme a son propre cabinet, hein, donc elle est indépendante. Comment vous dire
Qu'est-ce que vous constatez au quotidien, Laurent?
J'ai pas entendu, pardon.
Qu'est-ce que vous constatez au quotidien?
Eh ben, depuis quelque temps, enfin ça dure depuis maintenant un bout de temps, elle rentre le soir alcoolisée, tous les soirs du boulot. Quoi. Mmh. Elle rentre pas à 20h, elle rentre à 22h, 22h30, mais ça c'est normal, c'est le boulot, je comprends, c'est les avocats, ils bossent comme des malades, elle a une très belle clientèle et tout ce qui va avec. Mais je pense qu'arrivé à un certain moment de la journée au cabinet, elle décharge le stress dans un verre. Alors ça va une fois, ça va deux fois, et puis à un moment donné on se rend compte que plus elle rentre tard, ou plus, enfin plus le jour passe, elle rentre tard, et on sent que le degré d'alcool augmente.
Est-ce qu'elle a pris conscience de sa maladie?
Alors je pense qu'elle a pris conscience qu'elle avait un problème avec ceci. La seule chose, c'est que bon, comment vous dire, il y a beaucoup de fierté. Vous savez, la profession d'avocat, c'est un beau job, mais quand vous faites du business, vous êtes un petit peu dans l'entre-soi, c'est un problème de longueur de quéquette, d'existence, de choses comme ça. Donc, elle est très très fière, plein d'orgueil, parfois de la condescendance envers les gens, mais bon, voilà. Donc, je pense que c'est un tout, et ce qui est assez remarquable chez elle, c'est que elle est capable de partir le matin bosser, elle bosse toute la journée, et ça se voit pas, quoi.
Oui, oui.
Docteur Bouvet de la Maison.
Oui,
la
juste un conseil.
Son stress quotidien, elle le décharge dans l'alcool, et moi je la récupère dans un état pas possible, donc alors après elle rentre, c'est de l'irritabilité pour rien du tout, il y a un verre sur la table, il y a de la poussière là, des trucs un peu surnaturels.
Oui, mais monsieur, je comprends bien, si votre femme ne peut pas consulter pour le moment, nous avons créé une association qui s'appelle Addictel, vous pouvez nous joindre sur Twitter, Instagram et Facebook, elle peut nous joindre, bon, les familles également, et c'est un sas avant la consultation, c'est-à-dire que ça permet à la personne de poser tout un tas de questions, nous pouvons la conseiller, l'orienter, même la conseiller, c'est une association 2.0, donc vous pouvez tout à fait nous contacter.
Laurence Côté, Virginia Monet, qu'est-ce que vous avez envie de dire
au compagnon de cette femme et à cette femme, si elle nous écoute peut-être.
Eh bien, en fait, vraiment la clé, c'est aussi de ne plus être dans le déni et de faire comprendre à la personne, ou qu'elle comprenne elle-même du moins, qu'elle a un problème avec l'alcool. Une fois qu'on sait qu'on a un problème avec l'alcool, c'est déjà une partie du chemin qui est parcouru, et vraiment une grande partie du chemin qui est parcouru.
Laurence Côté.
Le conseil, c'est d'écouter cette émission. Voilà, je suis assez émue parce que j'ai moi-même été avocate. Donc je connais le métier, c'est un métier épuisant, on donne beaucoup à ses clients, on repart avec les émotions et les problèmes des clients, et sans doute, si monsieur est toujours à l'écoute là, sans doute que votre épouse revient, mais exténuée, et donc elle a trouvé l'alcool pour essayer d'apaiser tout ça. Alors ça a été mon parcours, donc je reprends mes propos, un jour elle tombera. Donc si elle peut écouter, si elle peut rejoindre l'association Addict Elle, à laquelle je fais d'ailleurs partie, c'est peut-être le début d'une prise en charge. Mais il faut plus attendre, à mon avis.
Merci beaucoup, Laurent, d'avoir témoigné ce matin. Allez, il est temps de retrouver la chronique de notre médecin romancier Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Alors voilà.
Baptiste Beaulieu.
Oui, Ali, vous savez, quand je parle ici de mon expérience médicale, je n'évoque jamais un patient en particulier, mais des ensembles de patients que j'agglomère sous un visage individuel. Et en usant du même procédé, je voulais vous parler ce matin de Madame Oiseau. Alors, Madame Oiseau, elle boit, et elle a hésité à m'en parler la première fois que nous sommes vus en consultation, parce que c'est honteux, on l'a dit, pour une femme encore plus. Et d'ailleurs, elle parle peu, ses mots sont des événements, elle m'explique qu'elle va perdre son permis de voiture, peut-être la garde de ses enfants. Et puis, elle tremble, elle paraît sur le point de s'effondrer. Et comme l'écrit l'excellente romancière Cathy Gallec dans son roman sur l'alcoolisme féminin que je vous conseille, « Et boire ma vie jusqu'à l'oubli », elle écrit ça. « Autant nommer les choses pour ce qu'elles sont, on ne boit pas. Boire, c'est pour se désaltérer. Un boulimique ne mange pas, il bouffe. Quand on se fait glisser de l'alcool dans le gosier, tous les jours en quantité massive, alors on ne boit plus. On se livre à une lutte armée dans laquelle l'assaillant est aussi l'assailli. Eh bien, quand je fais sa connaissance, Madame Oiseau est l'assaillante assaillie. Et on parle ensemble, on parle longtemps de son histoire, de ses peurs, de ses regrets et des endroits où elle cache l'alcool dans la maison. Elle me dit entre les plis du linge, puisque de toute façon, personne hormis elle ne s'occupe du linge. Je dis rien, mais cette histoire de linge, je me dis, c'est peut-être une part aussi du problème, je sais pas. Elle me parle aussi de cette fois où des policiers l'ont arrêtée et ont pris en se marrant des photos d'elle en train de tituber au poste. Et du lendemain matin aussi, où un policier a profité d'avoir son numéro de téléphone pour lui proposer un rendez-vous et d'aller boire un verre. Et vous savez, quand on boit, on est vulnérable. Et quand on boit et qu'on est une femme, on est vulnérable au carré. Eh bien, je veux le dire ce matin à la radio, cette patiente, elle s'en sort. Elle s'en sort toute seule, elle est entourée, mais elle s'en sort. Et je voudrais vous parler de la façon dont j'ai vu jour après jour ses cheveux se faire moins gras, sa mise moins dépenaillée, son teint moins gris, et peu à peu, lentement, comme au printemps éclosent les bourgeons, revenir sur son visage un sourire et du rose sur ses joues, et c'est la vie qui reprend ses droits. Et elle s'en est sortie, elle s'est libérée, elle est libre. Je ne dis pas qu'elle ne rechutera pas, personne ne le sait, mais l'alcool, c'est un fil à la patte. Elle le sait aussi. Mais là, elle a réussi. Maintenant, elle a réussi. Alors, à toutes les Madame Oiseau qui nous écoutent, je voudrais dire, ne perdez pas espoir. Vous pouvez réussir, vous pouvez y arriver. Je le sais, je l'ai vu. Et parlez-en, si vous en sentez la force, à un ami, un médecin, un parent, une collègue, une personne de confiance, quelqu'un qui écoute sans juger. Mais parlez-en, parce que vous n'êtes pas toute seule.
Elle vous parle,
oui,
Madame
on
Oiseau.
S'en sort. On s'en sort. Je veux le dire haut et fort, on s'en sort. Quand on a l'impression d'être au fond du gouffre, on voit pas comment on peut s'en sortir. Effectivement, il faut être accompagné d'un point de vue psychologique et au début médicamenteux. Il faut pas le nier, mais vraiment psychologique. Et oui, on s'en sort.
Laurence Côté.
C'est superbe ce témoignage. Effectivement, on est là pour donner de l'espoir. Par contre, il faut se faire aider. Là, c'est rare qu'on puisse s'en sortir seul. Donc il faut franchir ce pas qui n'est pas facile du cabinet du médecin traitant ou du psychiatre addictologue. Il faut vraiment avoir l'humilité de demander de l'aide et on s'en sortira.
Laurent Carilla.
Oui, on s'en sort. Oui, on aide nous les patientes et les patients à s'en sortir. Donc c'est un long programme, comme dit Virginie, comme dit Laurence. C'est un long programme. Au début, il y a un suivi qui est à la fois médicamenteux et psychologique et qui doit prendre en compte différents axes, à la fois addicto, psychologique et environnementale.
Fatma Bouvet de la Maison.
Alors, je voudrais dire que ce sont des femmes qui sont très sensibles et donc par définition très créatives. Et donc, quand on s'en sort, c'est une façon de réaliser une sorte de désir, c'est une façon de mettre en place sa créativité parce qu'il y a toujours eu un rendez-vous manqué et c'est effectivement vraiment la chrysalide qui se transforme en papillon et l'accompagnement de ces femmes est merveilleux parce qu'on leur apprend à conquérir leur liberté et à réaliser leur désir et c'est formidable. C'est un petit peu comme Laurence et Virginie
ici. Je voudrais rajouter quelque chose d'important. Parfois, on n'est pas très gratifiante à soigner et on arrive alcoolisé à vos consultations.
Ça, c'est pas grave.
Soyez gentils de nous recevoir.
Même, évidemment.
Voilà, même alcoolisés. Non, mais certains nous prennent pas. Oui. Mais même alcoolisés, c'est comme cela qu'on peut vous dire aussi certaines choses qu'on ne vous dirait pas si on n'avait pas l'alcool.
Il y a des addictologues plus rock'n'roll que d'autres, en fait.
Comme vous, par exemple.
Voilà.
Allez, vous pouvez réagir à la chronique, à la belle chronique de Baptiste Beaulieu sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien que vous fasse. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 01 45 24 7000.
L'envers de l'enveloppe est inscrit, tout en bas écrit en tout petit,
majuscule, voyelle et discrète.
J'ai fait une drôle de tête, un drôle de soupir. En la retournant de l'autre côté, un nouveau message à décrypter.
Mets-lui des ailes, c'est une déesse.
À cet instant fébrile, j'ai ouvert. Et c'est là que j'ai découvert. Est-ce l'être infini qui me le crie? La lettre infinie que je relis.
L'être infini, infini.
Infiniment, mais pour la vie. L'être infini que je suis.
L'être infini. L'être infini, infini.
C'est bien parce que ta bouche a une fausse note. C'est la perfection divine.
L'être infini, infini.
Pourquoi dans l'or, c'est toujours quand ça frotte, quand ça trébuche, que l'on s'incline.
L'être infini, infini.
Voilà soudain à quoi j'ai pensé devant cette lettre immaculée. Est-ce l'être infini qui me le crie? L'être infini que je relis.
Interpréter l'être infini.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h44, on s'intéresse ce matin à l'alcoolisme au féminin. N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000 ainsi que sur l'appli France Inter. Véronique nous dit, ma sœur est alcoolique, comment l'aider quand elle est en manque? Lui donner à boire ou bloquer l'accès à l'alcool? Docteur Fatma Bouvet de la Maison Neuve.
C'est un vrai dilemme, hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle consulte surtout. Hein. Donner à boire, je peux pas le dire.
Il faut
qu'elle soit accompagnée dans l'arrêt de l'alcool. L'accompagnement médical est indispensable puisqu'elle risque un syndrome de sevrage très très grave jusqu'à... Enfin, avec un risque vital, il faut le dire.
Docteur,
c'est très dangereux.
Docteur Laurent Carilla m'a dit, nous dit, comment puis-je aborder le problème d'alcoolisme de ma fille de 40 ans? Elle est totalement dans le déni. Elle peut boire de 1 à 3 bouteilles de vin chaque soir. J'ai essayé d'aborder le sujet et à chaque fois, elle se met en colère. Je suis très inquiète pour son avenir.
c'est extrêmement compliqué quand il y a une histoire de déni, mais je pense qu'il faut passer par, à ce moment-là, par des associations comme Addict L. Il y a aussi Al-Anon qui peut aider.
Répétez cette association.
Al-Anon, qui aide les familles aussi. Addict L, donc très spécifique. Il peut y avoir aussi d'autres associations comme SOS Addiction.
Bonjour Delphine, bienvenue.
Oui. Bonjour.
Alors, vous êtes malade alcoolique, abstinente, depuis 3 ans.
Oui.
Vous avez commencé à boire, vous nous avez dit, vers l'âge de 16 ans, c'est ça?
Ben, j'ai commencé à boire vers l'âge de 16 ans, ben, dès que j'ai commencé à sortir, en fait. Mm-hmm. Et ensuite, c'était tous les week-ends. Et ensuite, c'était à partir de l'âge de 30 ans où là, j'ai commencé à boire tous les jours. Quoi. Mm-hmm. Et ça a commencé vraiment à s'aggraver vers 35, 36, 37, et jusqu'à l'âge de 40 ans. Quoi.
Pourquoi ça s'est aggravé?
Pardon?
Pourquoi ça s'est aggravé, Delphine?
Ben voilà, quoi. Donc, par rapport à tout ce qui a été dit dans l'émission, quoi, donc il y a toutes les choses qui sont ressorties de mon enfance, abus sexuels, l'alcoolisme de ma mère, dépression, anxiété, bah tout ça, quoi, tout ça a fait que j'étais jamais heureuse et puis en fait l'alcool me procurait un semblant de bonheur ou d'oubli surtout, quoi, d'anxiolytique, c'était un bel anxiolytique en fait. Et donc, je croyais que ça m'aidait en fait à passer le cap, à passer au-dessus des problèmes, mais en fait non, quoi. Et ensuite, je me suis bien retrouvée coincée en fait, parce qu'à chaque fois que je me levais, c'est la première chose à laquelle je pensais. Je me refusais de faire des choses parce que je savais très bien que je ne pouvais pas consommer d'alcool. Ou que j'aille, quoi, donc je restais chez moi pour être sûre de pouvoir boire de l'alcool, quoi. Donc je me suis un peu enfermée petit à petit, et puis très peur de m'en sortir, quoi, parce que très peur de quitter l'alcool aussi. Parce que je savais pas comment faire sans, quoi. Donc, mais c'est possible.
Virginie Amonet, c'est très intéressant ce que dit Delphine, elle avait très peur de quitter l'alcool.
Oui, on a peur de quitter l'alcool, mais il faut comprendre que c'est un véritable engrenage qu'on ne voit pas venir. Encore une fois, on se sent plus fort que l'alcool et en fin de compte, on n'est pas plus fort que l'alcool. D'un besoin psychique qu'on attend, on attend l'alcool, on a un rendez-vous avec l'alcool, on oublie ses problèmes, on prend confiance, on se croit plus fort. Et puis après, ça devient un problème, une dépendance physique, vitale. Et pour répondre aussi à ce que j'ai pu entendre à l'instant aussi, c'est que effectivement, comment faire? Il faut donner de l'alcool à la personne parce que on est en manque, on tremble, on a des déliriums très minces, on souffre, on est en souffrance dans son corps. On peut pas se lever, on peut pas marcher, on peut pas rester allongé. Donc il nous faut cet alcool et donc il faut aussi également un suivi, des consultations, bien évidemment. Mais on peut pas arrêter l'alcool comme ça et nous priver d'alcool, sinon on meurt.
Comment vous en êtes sortie, Delphine?
Alors, j'ai arrêté d'être dans le déni et je voulais vraiment m'en sortir parce que je commençais vraiment à commencer une dépression parce que je n'arrivais pas à arrêter seule. Et j'ai commencé à aller voir une association et être suivie par une psychologue et un centre d'addictologie. Et donc là, une fois, il y a une psychologue qui m'a dit, vous avez deux choix pour votre futur, soit vous mourrez jeune ou soit votre fille prend le même parcours que vous. Donc là, ça m'a parlé, en fait, ça m'a beaucoup parlé. Et donc là, le travail a commencé, en fait. Le travail de ne plus être dans le déni. Et tout doucement, ça m'a pris quand même un an pour que ça se travaille. Ensuite, j'ai fait un sevrage d'une semaine, mais en hôpital, en CHR. Ensuite, je suis ressortie, mais sans suivi psychologique. Mmh. Et donc, j'ai rechuté très, très rapidement. Et ensuite, je suis repartie en sevrage dans un hôpital parce que j'étais vraiment fatiguée de partout, quoi, dans la tête. Et là, j'ai décidé de faire une cure de 5 semaines. Ça a été le déclencheur, quoi. J'ai tout compris. J'ai compris la maladie, en fait. Et dès que j'ai compris la maladie, toutes les portes se sont ouvertes. Et là, j'ai la chance de vivre ma deuxième vie, quoi, sur l'alcool, et c'est merveilleux.
Oui, alors je raconte dans mon livre Noyé dans l'alcool, c'est vrai que le sevrage, quand la première fois qu'on y va, on a l'impression qu'on va guérir de l'alcool. Or, on guérit le corps du manque d'alcool en sevrage pendant 15 jours. Mais on n'est pas suivi psychologiquement. Donc quand on sort de sevrage, évidemment, on replonge automatiquement. Et donc, il faut faire plusieurs sevrages et on s'aperçoit souvent qu'on rencontre des personnes qui en sont à leur 8e, 15e sevrage.
Merci beaucoup Delphine pour votre témoignage. En quoi consiste justement le sevrage, Laurent Carilla?
Le sevrage, donc c'est de la désintoxication, mm-hmm. hein, comme dit Virginie. Mm-hmm. La désintoxication, c'est quoi? C'est on va éliminer les symptômes physiques du problème. C'est-à-dire qu'on va donner des traitements qui vont lutter contre l'anxiété, contre justement ces symptômes de manque. On va agir sur le sommeil. C'est essentiellement ça. Et on va hydrater avec un peu de vitamines pour protéger le cerveau. C'est ça la première étape. Mais l'étape la plus complexe, c'est le après, c'est maintenir l'abstinence.
Une question pour vous, Laurence Côté. Je rappelle que vous êtes patiente experte. Un internaute nous dit « Ne pas boire est malheureusement toujours assez mal considéré. Je bois très peu et je suis considéré comme une rabat-joie dans les dîners. » Nous dit donc Béatrice.
Ben oui, c'est un petit peu ça le problème, c'est qu'on a trop bu pendant beaucoup, une période de temps longue. On se soigne et on devient parfois abstinente par choix ou par obligation, c'est mon cas, et donc on se fait passer pour un rabat-joie. Ben c'est là-dessus qu'il faut travailler et dire non. L'alcool, ça peut être du plaisir, mais on peut très bien avoir du plaisir sans alcool. Et ensuite, pour rester dans l'alcool-plaisir, eh bien, il y a des repères de consommation à moindre risque à ne pas dépasser. Et là, je tiens à les rappeler parce qu'on ne l'a pas encore dit, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours, avec le respect de jours d'abstinence.
Je vais vous poser une question très prosaïque. Est-ce que l'organisme des femmes encaisse l'alcool de la même manière que les hommes?
Non, non. Alors, il y a un certain nombre d'hypothèses hein, qui ont été avancées, neurologiques, sur le cycle menstruel, l'hépatotoxicité, le métabolisme, etc. Non, toutes ces hypothèses ont été étudiées, mais il n'y a pas de consensus autour de cela. En revanche, c'est le volume corporel qui est retenu aujourd'hui comme la raison essentielle. Et donc, les complications sont 5 à 8 fois plus rapides et plus importantes chez la femme que chez l'homme.
L'alcool reste concentré plus longtemps dans le sang et les tissus organiques des femmes, Laurent Carilla ?
Oui, complètement. L'alcoolémie est plus élevée à dose égale, à poids égal, à âge égal, entre hommes et femmes, c'est plus élevé, l'alcoolémie est plus élevée.
On connaît le processus ?
Plusieurs hypothèses ont été avancées, mais voilà, il n'y a pas de consensus jusqu'à présent.
Non, il n'y a pas de consensus. Ce qu'on sait dans des travaux très très récents, c'est que les œstrogènes agissent sur le système de récompense quand même, et ça peut aussi dérégler les choses. C'est pas le seul facteur explicatif, mais c'est un facteur important à prendre en compte.
Quelles sont les conséquences de l'alcool sur la santé des femmes? L'épidémiologiste et biostatisticienne Catherine Hill affirme que consommer un verre d'alcool par jour augmente le risque de développer un cancer du sein de 10%.
Oui, c'est une constatation épidémiologique. Mais après, il faut pas apeurer tout le monde. Hein, mais c'est une constatation. Oui. Il y a quand même 11 000 femmes qui meurent par an à cause de l'alcool.
Voilà, ça, c'est la raison pour laquelle, justement, on interpelle, nous, les pouvoirs publics, sur le manque de prévention par rapport à l'alcool en général. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'alcool des femmes en particulier. Donc, bien sûr, un jour, on va se réveiller et on va regretter d'avoir pas fait ce qui est en train d'être fait aujourd'hui pour le tabac.
Selon l'Institut National du Cancer, 17% des cancers du sein seraient dus à l'alcool. Il existe également des liens entre la maladie alcoolique et le risque cardiovasculaire. Par exemple, la tension artérielle augmente à mesure qu'augmente la dose d'alcool.
Oui, il y a ça. Il y a les problèmes métaboliques également, l'augmentation des triglycérides, du cholestérol. Enfin, vous avez tous les facteurs effectivement métaboliques qui peuvent être déréglés par l'alcool. Il y a également la question des douleurs. On ne le sait pas suffisamment parce qu'on ne nous l'enseigne pas. Les douleurs musculaires, articulaires... la prise de poids, évidemment, les problèmes dermatologiques, les cheveux cassés, les ongles cassés. On reconnaît très très bien les personnes qui boivent régulièrement, des troubles du transit. Enfin voilà, il y a énormément de complications.
Virginia Monnet.
Oui, ce qu'il faut dire également, c'est qu'il y a les conséquences physiques. Donc moi, personnellement, j'ai été épargnée. Mais il y a aussi les conséquences, on va dire, environnementales qu'on cause à cause de l'alcool en tant que femme. Tout ce qui est conflits familiaux,
violence.
Tout ce qui est violence auprès de son conjoint. Il n'y a pas que les hommes qui sont violents avec les femmes. Les femmes sous alcool sont violentes aussi avec leur conjoint. Après, il y a énormément avec les enfants aussi, que ce soit verbalement ou physiquement. Mais effectivement, l'alcool a énormément de dégâts. Et je pense que les statistiques seraient largement augmentées si on tenait compte de toutes les violences conjugales causées à cause de l'alcool, hommes ou femmes compris.
Laurence Côté.
C'est toujours regrettable le mal que l'on fait à son entourage. Par contre, il faut que cet entourage nous pardonne ce mal si on veut, nous, progresser dans le parcours de soins. Donc, c'est quand on dit on soigne un alcoolique, en fait, c'est 7-8 personnes qui vont participer à la guérison de la personne qui souffre de cela.
Alors, il y a plus de complications, c'est ça, c'était ça la question, Ali. J'ai eu un bug sur le... Non, mais moi je trouve que cette émission est très très importante et c'est très important qu'on soit tous là à en parler, que les femmes soient là à parler de ce problème spécifiquement féminin. Et je pense qu'elles devraient aussi accepter certains hommes qui soignent les femmes.
Nathalie, bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour, merci.
Alors, vous êtes alcoolo-dépendante, c'est ça ?
Alors oui, je suis alcoolo-dépendante depuis 21 ans et je suis dans le rétablissement depuis 11 ans, 5 mois et 9 jours aujourd'hui.
Comment en êtes-vous arrivée là ? Comment êtes-vous devenue abstinente ? Par quelle voie thérapeutique y êtes-vous parvenue ?
Alors, donc pour le déclic, ça a été surtout l'épuisement. Le fait de m'être noyée dans l'alcool, comme le dit très bien Virginie Amonet, c'était une grande déception affective. Mais au final, après le rétablissement, je me suis rendue compte que tout simplement, c'est parce que j'avais un corps qui était dépendant. Mmh. Ça, c'est le point crucial de nous tous quand on consomme un produit addictif. C'est qu'on est dépendant, on a des corps dépendants. Et c'est là-dessus aussi qu'il faut le travailler.
Merci beaucoup Nathalie pour votre témoignage ce matin. Il nous reste 2 minutes. Un mot de conclusion autour de la table pour aider les femmes qui veulent soigner leur maladie alcoolique. Je commence avec vous, Fatma Bouvet de la Maison Neuve.
Moi, j'ai envie de dire qu'on s'en sort. On s'en sort en se libérant. La liberté, c'est une des choses les plus difficiles à conquérir. Il faut voir un thérapeute qui vous aide à conquérir votre liberté par rapport à l'alcool et par rapport aux contraintes qui vous ont poussé à boire. Et on y arrive et on devient créative et on vit une abstinence heureuse.
Un message d'espoir, Virginie Amonet.
Oui, je pense à toutes ces femmes qui sont au fond du gouffre à l'heure actuelle. Je veux vous dire que moi aussi, j'étais au fond du gouffre, je ne savais pas comment j'allais remonter la plante. Malheureusement, il a fallu que je tombe très bas. Et effectivement, le déclic pour moi, ça a été un tourbillon où j'ai vu trop d'infirmiers, trop d'hôpitaux, j'en avais marre, je suis arrivée à épuisement. Je voudrais vous dire qu'on s'en sort, mesdames. Et messieurs aussi, on s'en sort. Je pense parce que l'alcool est un véritable poison et j'aimerais bien que le gouvernement se tourne un peu plus vers cette problématique en ce qui concerne la loi Evin.
Oui, Laurence Côté.
Bon, en complément, parce que Virginie a tout dit, il faut surtout travailler sur la honte. Cette notion de honte, il faut pas avoir honte, c'est une maladie, c'est pas une maladie honteuse. Une fois qu'on a compris ça, en général, le déclic se fait.
Laurent Carilla, pour terminer.
Moi, en complément de tout ce qui a été en complément et dit par tout le monde, on s'en sort, hein. On s'en sort de cette maladie. C'est un travail qui est long. Il y a un process qui peut durer un peu longtemps. Souvent, le déclic est un peu plus long chez les femmes que chez les hommes, mais on peut y arriver.
Allez, je recommande les 4 livres ce matin à lire avec beaucoup de profit. L'alcoolisme au féminin, c'est signé Dr Laurent Carilla et c'est publié chez Le Duc. Les femmes face à l'alcool de Fatma Bouvet de la Maison Neuve. Résister et s'en sortir, c'est chez Odile Jacob. Un témoignage très très fort et également Fatma Bouvet de la Maison Neuve, votre association.
Merci, Addictel, merci beaucoup.
Virginie Amonet, Noyée dans l'alcool, un témoignage très très fort publié chez Max Milo. Et Laurence Côté, je recommande vraiment, mais il faudra revenir pour en parler. Petit guide pour réussir son mois sobre, 31 jours, pour relever le défi d'une pratique healthy, comme vous l'indiquez en couverture, et c'est publié chez Inter Éditions. Demain, on s'intéresse au retard et aux retardataires, en compagnie de la philosophe et psychanalyste Hélène Leuillet, et avec la psychiatre Aurélia Schneider. Vous verrez qu'il existe des bienfaits au retard. À suivre, Nagui et sa bande originale.